Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, chapitre 2, Implantation. La reprise de l'esprit avait mené inévitablement à la question de l'implantation des pierres frontales à tous ces nouveaux adeptes, et, malgré les réticences extrêmes des natifs de Basseville, qui voyaient dans ces greffes une atteinte à l'intégrité de leur corps, il fallut bien les convaincre de la nécessité de savoir si les gens utilisaient ou non l'esprit. C'était une contrepartie indispensable au nouveau pouvoir qu'ils acquéraient. L'implantation ne pouvant se faire qu'après la puberté, les enfants n'étaient pas concernés et disposaient de temps pour se préparer. Mais tous les adultes qui avaient appris avec les apostats à résister au verbe, à pratiquer le seutan, ou qui envisageaient maintenant de bénéficier des cours de techniques spirituelles dispensés par des bénévoles natifs de Hauteville, avaient été invités à s'inscrire à la première vague d'implantation. Et parmi eux, montrant l'exemple, Keller. Ce rituel initiatique était lourd de symboles pour tout un chacun, mais plus encore peut-être pour lui, qui avait si longtemps désiré de faire partie de la Hauteville. Avoir une pierre frontale, c'était à la fois être reconnu par la haute ville comme un citoyen à part entière, effacer l'opprobre de son origine, devenir l'égal de ceux qui l'avaient admiré, adopter une nouvelle peau dans laquelle l'esprit marquait le corps, dominait la brute, une nouvelle identité dans laquelle le père enfin digne faisait taire l'assassin. Il désirait tout cela de toute son âme, et la douleur de l'opération lui semblait être un faible sacrifice, une offrande de chair et de sang dérisoire. Il fallait utiliser l'esprit pendant tout le processus, afin de maîtriser la douleur d'abord, puis d'accélérer la cicatrisation des tissus ensuite. Un pouce de peau et de chair, de la forme approximative de la pierre choisie, était alors incisé et retiré, et la pierre, propre et parfaitement polie, était greffée en son lieu et place. Les sutures spirituelles étaient alors amorcées, et quelques heures plus tard, la pierre, réactive à l'énergie spirituelle et parfaitement tolérée par le corps, semblait un appendice presque naturel du visage humain. Keller avait été convoqué dès l'aube dans l'ancienne guilde de la médecine, où des officiants souriants lui avaient fait choisir une pierre. Il les cultivait dans des salles fermées, à partir de poudres colorées, de bassins de liquide portés à ébullition, de pépites d'un métal rare, plus dense que le fer, et surtout d'une technique patiente et ancestrale. On avait expliqué à Keller les grands principes chimiques qui présidaient à la formation de ces sortes de cristaux, mais il n'avait écouté ces explications que d'une oreille distraite, médusée par l'atmosphère légèrement fantastique du lieu, ainsi que par les couleurs profondes et chatoyantes qui illuminaient le grand bac de cuivre où les pierres s'entassaient. Il en était de toutes les couleurs et de toutes les formes, seule la taille restait presque invariable. Keller se permit de mettre la main dans le bac à pierre, et de les laisser s'écouler doucement de sa main. « Utilisez l'esprit, Keller !» lui conseilla aimablement l'officiant. Il obéit et appliqua une technique de concentration basique. Aussitôt, toutes les pierres qui touchaient directement sa peau, il en dénombra instantanément 8 grâce à l'esprit, s'illuminèrent. Des lumières blanches, bleutées, vertes, fauves, rosées, se mirent à chatoyer. Keller ne put s'empêcher de rire. « Quelle couleur vous ferait plaisir ?» Keller regardait depuis tout à l'heure une petite pierre transparente, toute ronde, dont la lumière blanche lui parut rassurante. « Pourrais-je avoir celle-là ? » ? « Bien sûr. Tenez-la à votre front et regardez-vous dans le miroir après avoir utilisé l'esprit. » Keller s'exécuta, et l'illusion fut presque parfaite. Dans le miroir, il eut du mal à se reconnaître. Il ne s'était déjà jamais vraiment accoutumé à ses cheveux longs et blancs qu'il portait toujours attachés. Mais à présent, son visage se trouvait encore profondément modifié. Il paraissait plus imposant, un peu plus vieux aussi, et le rayonnement blanc le nimbait d'une aura de sagesse qui inspirait le respect. « Je prends celle-là, » répéta-t-il à mi-voix. L'officiant lui prit doucement la pierre des mains et le conduisit dans la salle des greffes. Une demi-douzaine d'autres citoyens de la nouvelle albâtre étaient là, deux jeunes natifs de Hauteville que la Révolution avait empêchés de se faire implanter 3 ans plus tôt, et surtout des gens comme lui, hommes et femmes entre deux âges, qui voulaient abolir encore les dernières frontières. On les priait de se concentrer à l'approche de l'opération. Un officiant psalmodiait un chant de la douleur, qui les aidait à dominer et à ralentir leurs pulsations cardiaques. Enfin, 6 officiants arrivèrent, et l'opération commença. Keller ferma les yeux, comme le lui avait recommandé à Eleanor, et se concentra sur le chant qui envahissait progressivement sa conscience et l'aidait à se sentir léger, presque décorporé. Il sentit vivement le scalpel qui entamait la peau de son front, mais cette douleur lui parut lointaine, comme si elle s'appliquait à un être qui lui était très proche, mais qui n'était pas lui. Il sentit également la brûlure de l'écorchure et la douleur de la pose de la pierre, en un seul coup qui lui sembla résonner dans l'os et se répandre à travers tout son crâne. Les yeux toujours fermés, Keller sentait toujours cette douleur, à la fois vive et lointaine, et il sentait maintenant la pierre, comme un corps étranger dans sa tête, et l'officiant l'appela doucement à ouvrir les yeux. « Regarde-moi, Keller, et ouvre-toi, mon verbe guérisseur. » Keller, docilement, regarda l'officiant dans les yeux, et se laissa submerger par la lueur de sa pierre frontale rosée. La pierre étrangère est douloureuse à ta blessure, et son cristal cassant est rejeté par ta chair molle et nerveuse. Mais laisse-toi descendre aux niveaux les plus infimes de ton existence corporelle. Laisse-toi circuler parmi les particules élémentaires de ta chair, parmi les cellules de tes os, de ta peau, de tes veines. Ton corps est un arbre qui vit, un arbre qui pousse et repousse sans cesse après la taille. Des milliards de bourgeons de chair fleurissent et grandissent dans la nuit de ta sève. Vois, tout autour de ta pierre frontale, les cellules bourgeonnent et se multiplient, le sang rentre dans les veines et les déchirures se recousent. Le cristal est en train de devenir tiède, comme irrigué par ton sang, et tu le sens déjà un peu, comme si le réseau sensible de tes nerfs l'avait soudain enveloppé et traversé. Le cristal perd sa dureté et devient appendice lumineux de ta chair, fenêtre de ton esprit. Partout où sa surface blessante agressait ton corps, des passerelles et des coussins de chair ont poussé, et le cristal repose, tiède, relié à toi par des rameaux invisibles et essentiels. La pierre adoptée a refermé ta blessure, et son cristal sensible prolonge ta chair molle et nerveuse. Le troisième œil d'albâtre s'ouvre désormais sur ton front. L'officiant s'arrêta de parler. On entendait encore certaines autres opérations se poursuivre à côté. Mais Keller ne prêtait pas attention à ce qui se passait à l'extérieur de lui. Il était tout encore à la magie de ce qui venait de se produire à l'intérieur de son corps. Les sutures spirituelles l'avaient plongé dans un état flottant, et il eut le sentiment de glisser sur le sol pour sortir du bâtiment et rejoindre Eleanor et les autres qui l'attendaient au dehors. Il la sentit se pendre à son cou et lui murmurer qu'il était beau. Cette idée le fit rire, car cette plongée dans les principes actifs de son propre corps avait remisé le souci de son apparence très loin de ses préoccupations. Le paraître semblait si dérisoire face à l'être. Il suivit néanmoins ses amis vers la réception qu'on avait préparée à son intention. À Eleanor, malgré les circonstances, avait tenu à respecter cette ancienne tradition d'albâtre. L'implantation de la pierre frontale était l'un des rituels initiatiques majeurs pour les citoyens d'albâtre et devait le rester. Keller se sentait épuisé. Pourtant, il utilisa l'esprit autant qu'il le put pendant toute la journée qui suivit. La sensation de l'illumination de la pierre était très étrange et assez plaisante. Un picotement, une très légère augmentation de la température, et la lumière jaillissait d'une intensité variable, parfois un peu éblouissante. Cette fête, où l'on s'enivra de vin de rose et où tout le monde célébrait le chemin parcouru par Keller, fut pour lui l'un de ces moments de grâce où l'on se sent pousser des ailes et échapper pour un instant par une irrésistible élévation à toutes les pesanteurs de la terre, de la matière et de l'existence.